Vous écoutez RFI, il est 16h à Paris et 21h à Hanoï. Le journal avec vous, Charlotte Hydrac, bonjour.
Bonjour Lucie Bouteloup, bonjour à toutes et à tous. À la une, un accord dans la douleur finalement signé entre les États-Unis et l'Ukraine. Partenariat économique qui donne accès à Washington aux ressources naturelles ukrainiennes et salué par les deux parties. Vacances forcées pour des milliers d'enfants au Cachemire pakistanais qui a fermé ses écoles coraniques. Et cela sur fond de tensions avec l'Inde. En Syrie, le cycle des violences confessionnelles, le chef spirituel des Druzes dénonce des massacres contre sa communauté. Au moins 73 personnes tuées en 2 jours d'affrontement. Et puis défis et mobilisations un petit peu partout dans le monde pour ce 1er mai, jour de fête des travailleurs. En France, les syndicats battent le pavé sous le soleil, souvent pour les salaires, les retraites, mais aussi la paix et la stabilité dans le monde. Kiev salue un bel accord équitable. Washington, un partenariat économique complet. Partenariat donc entre les États-Unis et l'Ukraine. Après des mois de négociations houleuses, les deux pays vont créer un fonds d'investissement et de reconstruction dédié au projet d'exploitation des minerais contenus dans le sol ukrainien, mais aussi le pétrole et le gaz. Julien Chavanne.
Il aura fallu des mois de discussions, des allers-retours laborieux entre les équipes américaines et ukrainiennes pour en arriver là. Et cette fois, les deux parties sont satisfaites. Côté américain, Donald Trump a pu annoncer une victoire à l'international pour fêter ses 100 jours à la Maison-Blanche, lui qui voulait une sorte de compensation aux aides militaires américaines pour l'Ukraine. Côté ukrainien, le compromis est beaucoup plus équilibré. L'Ukraine garde sa souveraineté et décidera seule des lieux et des ressources à exploiter. Mais Kiev n'a pas obtenu les garanties de sécurité qu'elle espérait, pas de nouvelles livraisons d'armes non plus. L'accord est purement économique et sa mise en œuvre encore très incertaine. Le potentiel des minerais ukrainiens demeurent largement spéculatifs. Il faudra d'énormes investissements et du temps. Et puis surtout, certains gisements se trouvent dans des zones occupées par la Russie ou encore sous le feu des combats. Malgré tout, cet accord est un bon signe pour l'Ukraine. Un rapprochement souhaitable vu l'état des relations avec les États-Unis.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle aujourd'hui l'Occident à renforcer la pression sur Moscou après la dernière frappe russe qui a fait 2 morts à Odessa dans le sud du pays. En Syrie, le chef spirituel des Druzes dénonce une campagne génocidaire, je cite, contre sa communauté. Cela après une série de violences à caractère confessionnel qui ont fait au moins 73 morts ces 2 derniers jours. C'est ce qu'indique l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La France appelle les acteurs syriens et régionaux, notamment Israël, à rétablir le calme. Par ailleurs, sur le plan économique, la Syrie a signé un contrat avec le géant français de la logistique CMA-CGM. Un contrat pour développer et exploiter le port de Latakié pour les 30 prochaines années. En Israël, des routes autour de Jérusalem ont pu rouvrir après avoir été fermées hier à cause de violents incendies dans la région. Les pompiers, là, sont toujours mobilisés pour venir à bout des flammes, mais les incendies sont maintenant sous contrôle. Les autorités israéliennes privilégient la piste criminelle pour expliquer les départs de feu. 1 millier d'écoles coraniques fermées au Cachemire pakistanais pour 10 jours, annonce en pleine tension entre l'Inde et le Pakistan qui a dit s'attendre à une frappe indienne imminente. La tension monte encore un peu plus chaque jour entre les deux voisins depuis l'attaque meurtrière au Cachemire indien la semaine dernière. New Delhi accuse Islamabad qui dément et les Cachemiris se préparent au pire, Yelena Tomic.
2 jours après que le premier ministre indien Narendra Modi ait donné carte blanche à ses forces pour frapper le Pakistan, le Cachemire pakistanais anticipe la riposte. Les autorités locales ont annoncé la fermeture de plus de 1000 écoles coraniques pendant 10 jours. Aux abords de la ligne de contrôle où des tirs transfrontaliers résonnent depuis maintenant une semaine, la population a commencé à stocker des vivres et à nettoyer les abris de fortune et les bunkers construits lors des conflits précédents. Des exercices d'évacuation et de premiers secours sont organisés dans les écoles pour se tenir prêts à intervenir en cas d'urgence. Malgré les appels à la retenue, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a exhorté les deux parties à désamorcer la crise et à éviter l'escalade. Les tensions persistent. Le ministère indien de la Défense a accusé l'armée pakistanaise d'avoir violé pour la 7e fois consécutive le cessez-le-feu le long de la ligne de contrôle.
Au Kenya, la police envisage la piste d'une attaque ciblée et prémédité après le meurtre d'un député. C'était hier soir, tué par balle en pleine rue, en pleine capitale, Nairobi, Charles Ogondo Were, membre du parti de Raila Odinga, opposant devenu allié du président. Aucune indication officielle, précision en tout cas sur le mobile pour le moment. Au Royaume-Uni, ce n'est pas un jour férié, ce jeudi, ce n'est pas la fête des travailleurs comme un petit peu partout en Europe, mais un jour d'élections locales. Une vingtaine d'autorités locales sont renouvelées à travers l'Angleterre. Et c'est un test pour les conservateurs qui ont perdu le pouvoir en juillet dernier, qui pourraient continuer sur leur mauvaise lancée, au profit notamment du parti d'extrême droite Reform UK. Reportage d'Emeline Vin à Ashford, à une petite centaine de kilomètres de Londres.
Les conservateurs tiennent le conseil local d'Ashford, à l'est de Londres, depuis 25 ans. Mais cette année, dans l'isoloir, Brian ira voir ailleurs.
J'ai toujours voté conservateur, mais ils n'ont rien fait contre l'immigration. Cette fois, je vais voter Reform, en espérant qu'ils fassent quelque chose. C'est surtout un vote de contestation.
Élu depuis 2017, Paul Bartlett a bien conscience que malgré les enjeux ultra-locaux, l'étiquette parti conservateur est difficile à porter depuis la déroute aux dernières législatives.
Cela ne fait aucun doute, nous devons accepter que nous avons échoué à tenir certaines promesses. Et d'ailleurs, beaucoup de mes anciens collègues conservateurs ont quitté le navire et font aujourd'hui campagne activement pour Reform.
Le parti d'extrême droite, proche de Donald Trump, pourrait gagner plusieurs centaines de sièges locaux en Angleterre. Pour autant, Paul Bartlett n'y voit pas une menace.
Quand les électeurs sont déçus, il arrive souvent que de nouveaux partis politiques émergent. Mais ils disparaissent comme neige au soleil une fois que les deux partis de gouvernement ont fait de l'ordre dans leur rang. Cette élection, c'est une première étape dans cette direction.
Pourtant, pour l'instant, et outre réforme, ce sont bien les petits partis qui devraient tirer profit de ces élections, comme les Verts et les libéraux-démocrates. Emeline Vran, de retour d'Ashford, RFI.
À chacun son premier mai en France, plusieurs responsables de gauche sont retrouvés aujourd'hui à Dunkerque, dans le Nord, aux côtés des salariés d'ArcelorMittal, dont les emplois sont menacés. À l'extrême droite, Marine Le Pen et Jordan Bardella du Rassemblement National affichent leur unité lors d'un meeting en ce moment à Narbonne, dans le Sud. La chef de file du RN, condamnée en justice, qui pourrait lui barrer la route pour la présidentielle 2027, Marine Le Pen donc, a appelé ses partisans à se lever contre ce qu'elle qualifie d'entreprise de confiscation de la démocratie. Du côté des syndicats, plus de 250 défilés sont ou ont été organisés ce jeudi avec différents mots d'ordre, les salaires, les retraites, les services publics, mais aussi la paix dans le monde. En France, encore des départements pointés du doigt pour des défaillances graves de leur aide sociale à l'enfance, un service qui relève de leurs compétences. Deux avocats ont annoncé une procédure contre deux départements pour l'instant à l'initiative de familles dont les enfants placés se sont prostitués, Amélie Beaucourt.
C'est une procédure juridique inédite qu'entament l'avocat Michel Hamas et son confrère Olivier Lemayou. Ils mettent en demeure les départements de l'Essonne en région parisienne et des Bouches-du-Rhône dans le Sud-Est pour non-protection des enfants placés sous leur responsabilité.
Cette alerte, nous la lançons parce que nous n'avons aucune arme face à ça. Ce sont des milliers d'enfants placés, c'est dans tous les foyers qu'il y a des petites filles qui se prostituent. Elles se prostituent parce qu'il n'y a aucun encadrement. Elles sortent de leur lieu où elles sont placées le soir. Elles ont de l'argent. Elles ont des fringues nouvelles. Elles vont au planning familial de manière régulière. Et jamais les services sociaux ne font remonter l'information de manière à ce qu'on traite au début.
Les deux avocats réclament au président de ces départements des excuses et une transparence sur les moyens déployés pour endiguer cette prostitution. Un phénomène massif qui touche des filles et des garçons dès l'âge de 10 ans. Suite à ce recours gracieux déposé par les avocats, le président du département de l'Essonne a annoncé lancer une enquête administrative et a réaffirmé que la protection des mineurs était une priorité.
Amélie Beaucourt, le foot, la fin de la semaine européenne ce soir avec les demi-finales allées de la Ligue Europa. Deux clubs anglais en lice. Tottenham accueille la grande surprise de la saison, l'équipe norvégienne de Bodo Glimt. Manchester United se déplace sur le terrain de l'Athletic Bilbao, coup d'envoi 19h TU. Et puis on suivra aussi le retour dans le grand bain de Léon Marchand, le nageur français révélation des JO de Paris, qui revient donc aux États-Unis pour une compétition en Floride avec un défi des courses en crawl. Ce n'est a priori pas sa spécialité. Première course un petit peu avant 16h TU. Pour l'heure, c'est pas du vent avec Anne-Cécile Bras.